Être présent ici et bienvenue aussi à ceux qui sont à la maison, derrière votre écran. J'espère que vous avez bien dormi. Peut-être que parmi ceux qui sont à la maison, certains se sont levés un peu fatigués ce matin et ont préféré rester sous leur couette pour suivre le culte. C'est chouette d'avoir cette possibilité-là. En tout cas, moi, il y a quelques semaines, ça m'est arrivé. Et peut-être qu'il y en a d'autres parmi nous, parmi ceux qui sont à la maison, qui se sont réveillés plein d'énergie après une bonne nuit de sommeil. Et certains ont bravé le froid, ils sont venus jusqu'ici. Alors, bienvenue à chacun. Alors, moi, cette nuit, j'ai assez bien dormi. Mais cette semaine, j'ai eu quelques nuits un peu difficiles. Je ne sais pas si ça vous arrive aussi, mais voilà, de temps en temps, moi, il m'arrive de ne pas très bien dormir. Je fais des insomnies, des fois j'ai de la peine à m'endormir, je me réveille la nuit puis je ne me rendors pas. Quand c'est 4 heures du matin, la journée d'après, elle est assez longue quand même. Ça m'arrive de rêver, puis du coup on est un peu perturbé par des idées comme ça qui nous poursuivent pendant la journée. Et vous le savez tous, la nuit, quand l'agitation extérieure se calme, la lumière diminue, eh ben, ça laisse souvent la place à l'agitation intérieure à se réveiller un peu. Et c'est souvent le moment favorable où les inquiétudes ressurgissent, les angoisses, le stress, la crainte de l'avenir. Et tout ça peut venir perturber notre sommeil. Et ça cogite. Hein. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, quand je ne dors pas, ça tourne en rond, ça ne s'arrête plus. Hein. Puis des fois, ça prend certaines proportions. On se dit, oulala, quand on se réveille le matin, enfin, quand on se lève le matin, on se dit, non mais attends, juste, on se pose quoi là. Hein. Bref, tous ces ingrédients pour avoir des nuits agitées. C'est aussi parfois dans ces moments-là qu'un problème trouve sa solution ou que des idées apparaissent. Il paraît que les artistes créent aussi souvent la nuit. D'ailleurs, en parlant de sommeil, j'ai vu un reportage cette semaine, c'était TTC lundi soir, qui m'apprend en fait que le sommeil est un véritable enjeu de santé publique. Je vous donne quelques chiffres. Un tiers de la population aurait des troubles du sommeil. Ouf, hein, moi je me sens moins seule. Le marché du sommeil est estimé aujourd'hui à 500 milliards de francs. Vous savez que 6,8 millions de boîtes de somnifères et de tranquillisants sont vendues en Suisse chaque année. Il existe plus de 80 pathologies liées au sommeil qui sont diagnostiquées dans des cliniques spécialisées. 10 à 15% de la population est atteinte d'une insomnie significative. Et c'est encore plus pour les apnées du sommeil. Le sleep tech se développe à grande vitesse. Sleep, dormir, tech, technologie. Alors, il y a des applications qui se créent. Il y a même des matelas connectés. Et il y a un hôtel de la place à Genève qui a développé récemment une nouvelle offre. 3 nuits dans une suite VIP comprenant un programme complet de bien-être, plus 2 nuits dans une clinique spécialisée visant à détecter d'éventuels troubles du sommeil pour le modeste prix de 10 000 francs. Bon, comme disait la journaliste, un prix à en faire perdre le sommeil. Enfin voilà, plein de solutions pour essayer de mieux dormir. Bon, enfin, toujours est-il que quand on passe une mauvaise nuit, comment on est ? Un peu fatigué. On dit la journée, elle va être un peu rude quand même. Parfois, certains, ils sont un peu de mauvaise humeur, assez irritables. Vous savez, un peu genre grincheux dans les 7 petits nains, hein. Pas très joyeux, mais plutôt grincheux. Hein. À l'image de ces petits enfants qui se mettent à faire une crise dès qu'ils sont frustrés. Je ne vous le ferai pas, mais... Hein. on imagine. Certains le matin, ben, je crois qu'il vaut mieux pas les croiser. Hein. Ben, en fait, le sommeil, c'est vieux comme le monde. Hein. Et à Babylone, là où Philippe va nous emmener ce matin, ben, il y a certaines nuits qui ont été très, très agitées. Certains qui ont mal dormi. Mais avant de reprendre ce voyage, je vous invite à remettre ce culte et à prier. Seigneur, nous sommes là devant toi, tels que nous sommes, reposés ou tendus, calmes ou agités. Tu connais notre état intérieur. Mais ce culte ce matin, Seigneur, c'est l'occasion de faire une pause. Nous prenons ce temps pour être à ton écoute, pour que tu nous rejoignes là où nous sommes. Merci parce que tu as toi-même créé le repos pour nous faire du bien et pour avoir du temps pour nous souvenir de toi. Donne-nous ce matin d'être dans ce repos pour être à ton écoute et apprendre à te connaître un peu plus. Sois avec chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Alors, vous savez qu'il y a une activité qui aide un peu à lâcher prise, à se détendre un petit peu. Ça génère en fait des endorphines. Enfin, moi, j'y connais rien, mais peut-être que les médecins ici pourraient nous en dire un peu plus. Et puis, c'est une activité du coup, qui est importante des fois pour commencer notre journée quand on a mal dormi, enfin peut-être. Cette activité, c'est de chanter. Alors, je vous invite à entrer dans un temps de louange et je laisse Xavier et son équipe. Pour ce temps-là.
Bonjour et bienvenue. Alors on va commencer, comme ça a été mentionné, par un joli petit voyage, en commençant par la louange. Qu'on puisse se poser maintenant dans ce qu'elle a partagé. Et remettez-vous devant Dieu. Qu'on puisse ce matin être dans cette reconnaissance, malgré nos circonstances, malgré toute chose qui vient, que ce soit cette semaine ou ce qui va venir. Mais offrons au Seigneur cette reconnaissance ce matin, parce que son amour ne durera jamais.
Reconnaissance, son amour durera jamais, car il est bon, il est au-dessus de tout, son amour durera jamais. Chantons, louons, d'une main puissante, elle a bras tendu, son amour durera jamais. Il nous donne une vie nouvelle, son amour durera jamais. Chantons, 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 louons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, son amour durera jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons, son amour durera jamais. Chantons, louons, chantons, louons. à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort. À jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais.
C'est vraiment un cadeau de pouvoir faire ce voyage avec toi, Seigneur. Et merci, pas j'ai envie d'être... Ouais, je suis reconnaissant de pouvoir voir tout ce que tu as accompli dans ma vie et dans la vie de chacun. Oui, c'est des temps des fois pas faciles, mais il faut vraiment toujours continuellement à pouvoir te percevoir en arrière et dans ce que tu fais. Et j'ai envie de te bénir et que mon âme puisse bénir ton saint nom.
Béni Dieu, oh mon âme. Oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Si l'aurore, l'aube d'un nouveau jour, pour toi un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour, je te chante encore. Béni Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Béni Dieu, oh mon âme.
lorsque nous chantons, imaginez que les anges aussi déclarent que Dieu est sauveur. Et ils viennent avec nous, ils chantent avec nous. Et ça me rend encore plus festif, en disant que les anges chantent avec nous. Imaginez ça. Waouh, ils sont là, ils sont au ciel, ils chantent avec nous. Et moi, ça me rend fou, tout simplement. Et je veux qu'on puisse chanter ensemble ce prochain chant qui déclare qui est Dieu, qui est Dieu, qui est notre sauveur. Alors, peut-être il est nouveau pour certaines personnes, mais allez-y quand même. On va le prendre ensemble.
Miséricordieux, grâce incomparable, amour véritable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur.
Précieux
Fils unique, beauté sans pareil, sagesse insondable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Nos voix unies à celles des anges déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Ton peuple uni à tous les anges déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Toujours invaincu, héros triomphant, puissance absolue, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Nos voix unies à celles des anges déclare, tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Ton peuple, uni à tous les anges, déclare, tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur.
Nos voix!
Nos voix unies à celles des anges déclare, tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Ton peuple uni à tous les anges déclare, tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Je suis à toi. Tu vis en moi, je suis à toi. Je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi,
je suis à toi,
je suis à toi. Tu vis en moi, je suis à toi.
Encore une fois,
je suis à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Nos voix unies à celles des anges déclare, tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Ton peuple uni à tous les anges, déclare, tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur.
Je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai en l'honneur de son nom. Encore une fois, je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai en l'honneur de son nom.
Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire. Non, je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai moi à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je dirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange. Je chanterai Dieu, je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom.
Oui, je chanterai gloire chaque jour. Malgré les circonstances, je veux proclamer à chaque fois qui tu es. Et merci pour ce temps. On peut être ensemble à élever ton nom. Et j'ai envie de te remettre Philippe dans ce qu'il va partager maintenant. Tu le bénisses, tu l'accompagnes aussi dans ce que tu lui as transmis pour nous. Amen.
Amen.
Je vais lire Jean 18, les versets 33 à 38. Pilate rentra dans le palais. Il fit venir Jésus et lui posa cette question. « Est-ce toi le roi des Juifs ?» Jésus répondit. « Dis-tu cela parce que tu y as pensé toi-même ou parce que d'autres te l'ont dit de moi ?» Pilate reprit. « Est-ce que je suis juif, moi ? Ceux de ton peuple et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ?» Jésus répondit, « Mon règne n'appartient pas à ce monde. Si mon règne appartenait à ce monde, mes serviteurs combattraient pour que je ne sois pas livré aux autorités juives. Mais non, mon règne n'est pas d'ici. » Pilate lui dit alors, « Donc tu es roi ?» Jésus répondit, « C'est toi qui dis que je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ce que je dis. » Pilate répliqua, « Qu'est-ce que la vérité ?»
Bonjour à chacun, chacune. Ce matin, nous allons retourner dans les années 605. 605 avant Jésus-Christ, dans l'immense empire babylonien que vous voyez s'afficher. Babylone elle-même est tout au sud de la Mésopotamie. Elle a poussé ses frontières vers le nord en s'emparant de l'Assyrie. Et de là, sous Nabucodonosor, l'Empire s'est agrandi vers le sud, évinçant pour commencer les Égyptiens des territoires que nous appelons encore aujourd'hui la Syrie, le Liban, la Jordanie et bien sûr la terre d'Israël. Entre 605 et 586 avant Jésus-Christ, en trois étapes, presque toute la population de la Judée sera donc déportée vers le nord en direction de Babylone. Un nettoyage ethnique. Un empire immense, des trésors, des cultures, des goûts confisqués par Nabucodonosor. Il a réussi, il a tout réussi. Voyez son empire à son sommet, ou presque. Si nous étions Nabucodonosor, ne serions-nous pas fiers de ses conquêtes, des immenses richesses que ses conquêtes procurent, du pouvoir? Ne serions-nous pas fiers de ces élites de tout pays embrigadées dans notre administration? Ne serions-nous pas fiers de la beauté de notre capitale, ici Babylone, de la gloire qui s'attache à notre nom, Nabucodonosor, de la gloire qui s'attache à notre personne? En tout cas, Nabucodonosor est connu pour avoir eu la grosse tête, une melonite aiguë. Et c'est dans ce contexte que nous allons lire ce matin une première tranche du chapitre 2 du livre de Daniel, les versets 1 à 13.
Daniel chapitre 2. Pendant la deuxième année de son règne, Nabucodonosor fit un rêve. Il fut si troublé qu'il en perdit le sommeil. Il convoqua les devins, les magiciens, les sorciers, les astrologues, afin qu'ils racontent au roi ses rêves. Lorsqu'ils arrivèrent et se présentèrent devant le roi, il leur déclara : « J'ai fait un rêve qui m'a beaucoup troublé. J'aimerais comprendre ce rêve. » Les astrologues répondirent au roi en langue araméenne : que le roi vive pour toujours. Que le roi dise le rêve à ses serviteurs et nous en ferons connaître l'interprétation. Le roi répondit aux astrologues : voici ma décision. Si vous ne me révélez pas le rêve et son interprétation, vous serez mis en pièces et vos maisons seront transformées en tas d'ordures. Si au contraire vous me faites connaître le rêve et son interprétation, vous recevrez de moi des cadeaux, des récompenses et de grands honneurs. Alors faites-moi connaître le rêve et son interprétation. » Ils répondirent pour la seconde fois : que le roi dise le rêve à ses serviteurs et nous en ferons connaître l'interprétation. Le roi reprit et dit : je sais avec certitude que vous essayez de gagner du temps, parce que vous voyez que ma parole est ferme. Mais si vous ne me révélez pas le rêve, la sentence sera la même pour tous. Vous vous êtes concertés pour ne prononcer devant moi que des propos mensongers et trompeurs en attendant que les temps aient changé. Eh bien non. Dites-moi ce que j'ai rêvé et je saurai ainsi que vous êtes capable de m'en faire connaître l'interprétation. Les astrologues reprirent en présence du roi : aucun être humain sur la terre n'est capable de faire ce que le roi exige. D'ailleurs, aucun roi, même grand ou puissant, n'a jamais demandé une chose pareille à un devin, à un magicien ou à un astrologue. Ce que le roi exige est excessif. Personne ne peut donner la réponse au roi, sinon les dieux, mais ils n'habitent pas parmi les êtres humains. Alors le roi entra dans une très violente colère et il ordonna de mettre à mort tous les sages de Babylone. Cette sentence fut publiée et les sages allaient être exécutés. On chercha donc aussi Daniel et ses compagnons pour les faire mourir.
La deuxième année de son règne, verset 1, c'est-à-dire en 603, Nabucodonosor fait un rêve qui le trouble beaucoup. S'il avait consulté un psychologue, un psychiatre, il aurait pu s'entendre dire que ce rêve était le signe d'une profonde inquiétude. Et nous verrons pourquoi dans un instant. Pour nous, les rêves sont un mécanisme naturel qui permet au cerveau de trier, de classer, de nettoyer les événements de la journée, un peu comme un ordinateur qui mouline de temps en temps pour faire une mise à jour. À ce titre, le rêve peut faire remonter des choses profondes, dont on arrive parfois à comprendre la signification. Mais de tout temps, les humains ont pensé que le rêve était un moyen surnaturel pour découvrir des choses cachées, pour connaître ces choses cachées, et connaître surtout, surtout, l'avenir. Nabucodonosor pense donc que son rêve est surnaturel. Mais il se méfie des mages, il se méfie des magiciens, il se méfie des sorciers, il se méfie des astrologues de la cour. Il est assez fascinant de penser que les Babyloniens avaient tout un corps de soi-disant sages que l'on pouvait consulter. Et le roi n'était probablement pas leur seul client. Alors comment est-ce que ces sages, ces magiciens, ces sorciers pouvaient dire où se trouvait tel ou tel objet perdu, qui voulait faire du mal à leurs clients, qui trompait qui, avec qui guérirait et qui ne guérirait pas? Comment pouvaient-ils faire ça? Moi, je vois trois explications très courtes. D'abord, beaucoup de bon sens, de la psychologie, une certaine connaissance de la complexité de la nature humaine, un peu comme les mentalistes aujourd'hui qui font des spectacles. Il n'y a pas de magie, c'est juste du bon sens. Et ils nous surprennent avec du bon sens. Mais ensuite, il peut y avoir des déclarations délibérément vagues, comme dans cette astrologie tellement de Suisses aiment. Ce sont des déclarations vagues, mais généralement assez optimistes. Le client ne veut pas avoir de mauvaises nouvelles, il veut être rassuré. Puis, suivant les personnes et les cas, la prédiction peut s'expliquer par des révélations reçues du monde invisible. Par la communion du médium avec le monde des esprits. Ce qui est caché, ce qui est occulte. Et c'est une dimension qui a toujours existé et qui existe aussi aujourd'hui encore, même si elle ne coule pas forcément de source. Ce n'est pas automatique qu'on fasse référence à l'occultisme. Nabucodonosor se méfie. Si je raconte mon rêve, ces soi-disant sages vont pouvoir se mettre d'accord pour me raconter n'importe quoi. Si vraiment ces sages ont des pouvoirs surnaturels, comme ils le disent, eh bien, qu'ils me racontent le rêve et son explication. Et évidemment, les mages, les magiciens, les sorciers et les astrologues sont complètement dans l'impasse. Et là, voyez la colère du roi qui explose. Il veut les tuer, tous. Ce sont tous des charlatans. Ils ont failli à la mission que leur donnait le roi. Mais le roi aura le dernier mot. Et la corporation des sages mourra. Daniel et ses compagnons. Eh bien, nous les avons rencontrés au premier chapitre commenté dimanche dernier par Célina. Ce sont de jeunes juifs de bonne famille qui avaient été déportés à Babylone. Ils font partie du service personnel du roi. Le roi les consulte pour bénéficier de leur sagesse et de leur discernement. Chapitre 1, versets 19 et 20. Ils font partie, Daniel et ses compagnons, de la corporation des sages. Et donc, ils vont mourir, eux aussi, puisque le roi veut se débarrasser de cette corporation de charlatans. Ils vont mourir aussi, Daniel et ses compagnons. Ils avaient refusé de se compromettre spirituellement au niveau de leur alimentation. Ils ont refusé de manger ou de boire ce qui n'était pas conforme à la loi de Dieu et qui pouvait être lié au culte des idoles. Alors je n'imagine pas un instant qu'ils recourraient à la magie pour conseiller les gens. Ils vont être les victimes innocentes de ce roi mégalomane comme les autres. Sauf que, comme au premier chapitre, une démarche intelligente et humble va ouvrir une porte de sortie. Et nous allons écouter la lecture d'une deuxième tranche de ce chapitre, au verset 14 à 23.
Daniel s'adressa de manière prudente et avisée au capitaine Arioch, chef des gardes du roi, qui s'était mis en route pour mettre à mort les sages de Babylone. Il lui demanda : Pourquoi la sentence du roi est-elle si dure ? Arioch lui exposa l'affaire, et aussitôt Daniel se rendit chez le roi pour le prier de lui accorder un délai afin qu'il communique l'interprétation au roi. De retour dans sa maison, Daniel révéla toute l'affaire à ses compagnons, Anania, Michaël et Azaria. Il les invita à implorer la grâce de Dieu et des cieux au sujet de ce mystère pour qu'on n'exécute pas Daniel et ses compagnons avec les autres sages de Babylone. Et le mystère fut révélé à Daniel pendant la nuit au cours d'une vision. Alors Daniel se mit à bénir le Dieu des cieux en ces termes. Bénissons le nom de Dieu depuis toujours et pour toujours, car la sagesse et la puissance lui appartiennent. Il est le maître du temps et de l'histoire. Il renverse les rois ou les établit. C'est lui qui accorde la sagesse aux sages, qui donne le discernement aux intelligents et qui révèle ce qui est profond et caché. Il sait ce qui se cache dans les ténèbres, car la lumière est avec lui. Vers toi, Dieu de mes ancêtres, monte ma reconnaissance et ma louange. Tu m'as rempli de sagesse et de force. Maintenant, tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé en nous révélant ce qui préoccupe le roi.
Voilà que la porte de sortie est entrouverte. Daniel obtient un délai. Daniel, on voit que c'est un homme qui sait garder son calme dans un moment de crise et qui, dans ce moment de crise, sait formuler une proposition raisonnable. Ce n'est probablement pas pour rien qu'il était compté parmi les sages. Mais la porte ouverte n'est pas encore une porte grande ouverte. Daniel et ses compagnons se tournent vers Dieu pour cela, pour que la porte soit grande ouverte. Et je suis frappé par la manière dont ils prient. Ils ne se targuent pas de leur mérite. Ils ne font pas référence à leur statut. Ils ne disent pas « nous, nous sommes des croyants dans un monde de païens ». Ils ne se lancent pas un instant, dans une sorte de prière de conquête pour forcer la main de Dieu. Jamais ils ne dénoncent le diable ou les autres. Jamais. Ce qu'ils font, c'est de faire appel à la grâce de Dieu, à sa compassion, à sa miséricorde. Verset 18. Autrement dit, ils savent, Daniel et ses compagnons, qu'ils sont impuissants. Ils savent même que la force ne réside pas dans le fait de prier. ils savent qu'ils n'ont aucun droit, mais que Dieu est bon, que Dieu seul peut les délivrer et qu'il peut faire justice d'une injustice. Et quand le secret est révélé à Daniel, c'est une magnifique prière de louange qui jaillit de sa bouche, versets 20 à 23. C'est Dieu qui règne sur l'histoire des hommes. C'est Dieu qui règne sur la chute des rois assyriens et judéens. C'est même Dieu qui règne sur la montée en puissance de Nabucodonosor. Dieu est souverain. Et là, il y a un secret à chérir pour nous. Quand on regarde la situation de notre monde, quand on regarde les enjeux géopolitiques, quand on regarde notre petite histoire, Dieu est souverain, jamais dépassé. Et je crois que c'est un trésor pour nos temps incertains. Dieu est souverain. Et deuxième axe, c'est Dieu qui est la source de toute la sagesse. Ce n'est pas le brillantissime conseiller royal qui est sage, ce n'est pas Daniel le sage qui est sage, celui qui est sage, c'est Dieu. Voilà pourquoi nous nous tournons vers lui, pour recevoir de la sagesse. Maintenant, quel était ce fameux rêve? On peut peut-être remettre le dessin remarquablement préparé par Michaela. Quel était ce fameux rêve? Nous allons lire une troisième tranche du chapitre, au verset 24 à 36.
Là-dessus, Daniel se rendit chez Arioc, à qui le roi avait ordonné de tuer les sages de Babylone. Sitôt arrivé, il lui dit, « Ne fais pas mourir les sages de Babylone, introduis-moi auprès du roi, et je lui ferai connaître l'interprétation de son rêve. » Sans tarder, Arioc amena Daniel chez le roi et dit à celui-ci, « J'ai trouvé parmi les exilés de Juda quelqu'un capable de révéler au roi l'interprétation de son rêve. » Le roi s'adressa à Daniel, appelé aussi Belshazzar, et lui demanda, « Es-tu vraiment capable de me révéler le rêve que j'ai vu et son interprétation ?» Daniel répondit au roi, « Aucun sage, aucun magicien, aucun devin, aucun astrologue n'est en mesure de faire connaître au roi le mystère dont il parle. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les mystères. C'est lui qui fait connaître au roi Nabucodonosor ce qui arrivera dans la suite des jours. Eh bien, voici le rêve et les visions que tu as eues sur ton lit. Lorsque tu t'es couché au roi, tu t'es mis à penser à l'avenir. Alors celui qui révèle les mystères t'a montré ce qui arrivera. Pour ma part, ce mystère m'a été révélé, non pas parce que je serai plus sage que n'importe qui d'autre, mais pour que quelqu'un communique l'interprétation au roi et te fasse connaître les pensées de ton cœur. Voici donc ce que tu as vu. Devant toi se dressait une très grande statue, d'une splendeur éblouissante et d'un aspect terrifiant. La tête de la statue était en or pur, sa poitrine et ses bras en argent, son ventre et ses cuisses en bronze. Ses jambes étaient en fer, et ses pieds, moitié en fer et moitié en terre cuite. Tu as vu cette statue jusqu'au moment où une pierre s'est détachée dans la montagne, sans l'intervention d'aucune action humaine. Elle est venue frapper les pieds en fer et en terre cuite de la statue, et elle les a fracassés. Alors, d'un seul coup, le fer et la terre cuite, ainsi que le bronze, l'argent et l'or furent réduits en poussière que le vent emporta comme des brins de paille lorsqu'on vanne les céréales en été. Aucune trace n'en subsista, mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne remplissant toute la terre. Tel fut le rêve et son interprétation que nous exposons au roi.
Encore une fois, qu'est-ce qu'un psychologue aurait dit de cela ? Un rêve qui parle d'angoisse, Mais cela, le comportement du roi l'indiquait déjà, angoissé. Quoi d'autre ? Il y a quelque chose de grand, de très grand, qui disparaît sans laisser de traces. Mais à ce moment-là, qu'y a-t-il de plus grand que Babylone ? L'empire est fragile, les conquêtes sont récentes, il y a peut-être des ennemis qui guettent, puis qui vont venir détruire Babylone. Derrière la colère d'un roi tout-puissant se cache un homme qui est mort de peur. Je m'arrête là pour la psychologie. Et c'est là que va commencer la révélation de Dieu que nous allons lire maintenant. Versets 36 à 45.
Tel fut le rêve et son interprétation que nous exposons au roi. Toi, mon roi, tu es le plus grand de tous les rois. Le Dieu des cieux t'a donné la royauté, la puissance, la force et l'honneur. Il a placé sous ton autorité les êtres humains, les animaux des champs et les oiseaux du ciel. Tu en es le maître, partout où ils demeurent. Eh bien, la tête en or, c'est toi. Un autre royaume, moins puissant que le tien, s'élèvera après toi. Ensuite, un troisième royaume, représenté par le bronze, s'étendra à toute la terre. Un quatrième royaume, dur comme le fer, lui succédera. Comme le fer écrase, pulvérise et broie tout, ce royaume écrasera et pulvérisera les royaumes précédents. Enfin, ainsi que tu l'as vu, les pieds et les orteils étaient faits en partie de terre cuite et en partie de fer. Cela signifie que ce royaume manquera d'unité. Il y aura en lui quelque chose de la solidité du fer, puisque tu as vu le fer mêlé à la terre d'argile. Mais les orteils des pieds, où le fer et la terre cuite étaient mélangés, montrent qu'une partie de ce royaume sera forte et une autre partie fragile. Comme tu as vu le fer mêlé à la terre d'argile, ils indiquent aussi que des rois s'allieront par des mariages, mais ces alliances ne seront pas solides, pas plus que l'alliage du fer et de la terre cuite. À l'époque de ces rois-là, le Dieu des cieux établira un royaume qui ne sera jamais détruit et dont la souveraineté ne passera jamais à un autre peuple. Il écrasera tous les royaumes précédents et mettra fin à leur existence, puis il subsistera pour toujours. C'est ce qu'annonce la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans l'intervention d'aucune action humaine pour venir pulvériser le fer, le bronze, la terre cuite, l'argent et l'or. Le grand Dieu a ainsi fait connaître au roi ce qui arrivera par la suite. Le rêve est sûr, son interprétation est digne de confiance.
En Daniel 2, 36, c'est la révélation de Dieu qui commence. Et elle va continuer jusqu'à la fin du chapitre 12. Salina et moi, nous avons parlé cette semaine. On a entendu ce qui a été regretté quand on a dit qu'on s'arrêterait peut-être à la partie historique. Nous commenterons le livre de Daniel dans son entier, d'une manière ou d'une autre. À partir de là, la révélation de Dieu commence. La statue ici est composée de quatre métaux. L'or, l'argent, le bronze et le fer. Ce sont quatre royaumes, ou plutôt quatre empires, qui vont se succéder dans l'histoire. Le premier de ces empires, c'est celui de Nabucodonosor, et sans doute celui de ses successeurs jusqu'à l'an 539, comme nous l'avons vu sur la carte tout à l'heure. 40 ou 50 ans plus tard, Daniel 7 et Daniel 8, que nous prendrons, font comprendre qu'après Babylone, il y a eu l'Empire perse, fondé par Cyrus le Grand. Ensuite, après cet Empire perse, viendra l'Empire grec, qui a été fondé, nous le savons maintenant, par Alexandre le Grand. Et à la mort d'Alexandre, les terres qu'il avait conquises ont été divisés entre quatre de ses grands généraux. Mais la civilisation grecque a continué longtemps à dominer le monde ancien, de l'Égypte aux frontières de l'Inde. Et à la fin de cette séquence grecque viendra l'Empire romain qui pointe déjà le bout de son nez en Daniel 11, depuis le verset 30. Ce quatrième empire, l'Empire romain, est dur comme le fer, mais avec une certaine fragilité du fait de ses rivalités internes, voire de ses guerres civiles. Avant sa disparition, il a été séparé en deux, entre l'Ouest et l'Est. Mais l'Empire romain n'est pas la fin de l'histoire. Je cite Daniel 2, verset 44, « À l'époque de ces rois-là, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera pas détruit et dont la souveraineté ne passera pas à un autre peuple. Il pulvérisera tous ces royaumes-là et mettra un terme à leur existence, mais lui-même subsistera éternellement. » C'est le sens de la pierre qui vient démolir toute la statue. À l'époque de ces rois-là, lesquels ? Eux tous, car tous, ils seront pulvérisés, et pas que les Romains. Je traduis donc, à l'époque de ces royaumes terrestres, à l'époque de ces royaumes qui se pensent puissants, Dieu lui-même instaurera son royaume, qui sera d'une toute autre nature et qui subsistera éternellement. Devant le représentant de Rome, premier texte que nous avons lu tout à l'heure, devant Pilate, dans l'Empire romain, Jésus a déclaré « Mon royaume n'est pas de ce monde ». C'est de ce royaume-là qu'il s'agit dans Daniel 2. Et à la fin des temps, au bout de l'histoire, quand on tirera un trait au bas de la page, il ne subsistera que ce royaume. Mais il est déjà là. Nous l'incarnons ce matin. Le rêve de la grande statue dit non pas la grandeur de Nabucodonosor, mais la grandeur de Dieu, qui est le maître de l'histoire. Les empires humains, ils peuvent nous impressionner, mais pour Dieu, ils ne sont que poussière. Comment est-ce que le mégalomane de l'an 603 avant Jésus-Christ va réagir ? Ben, on va lire la suite et la fin de ce chapitre, au verset 46 à 49.
Alors le roi Nabucodonosor se jeta face contre terre, rendit hommage à Daniel et ordonna qu'on lui présente des sacrifices et des offrandes de parfums. Puis le roi reprit et dit à Daniel, « Votre Dieu est vraiment le Dieu des cieux et le maître des rois. Lui seul révèle les mystères, puisque tu as été capable de me révéler ce mystère-ci. » Ensuite, le roi accorda à Daniel de grands honneurs et lui remit de nombreux et importants cadeaux. Il le nomma gouverneur de la province de Babylone, et chef suprême de tous les sages de Babylone. Sur une demande de Daniel, le roi confia à Shadrach, Meshach et Abednego l'administration de la province de Babylone. Et Daniel, lui, devint conseiller à la cour royale.
Vous avez vu la réaction de Nabucodonosor ? Une réaction de despote païen. Bien sûr, il se prosterne devant Daniel, il lui offre des offrandes, des parfums, comme si Daniel était un dieu. Et en fait, ce n'est même pas Daniel qu'il adore. Il adore le dieu qu'il imagine habiter dans Daniel. Ce dieu-là, pour Nabucodonosor, est peut-être le plus grand de la panoplie des dieux. Il est peut-être le souverain des rois de la terre. En tout cas, il révèle des secrets comme aucun autre dieu de Babylone n'a su le faire. Alors il faut l'amadouer. Il faut l'apprivoiser. Il faut le mettre de son côté, dans sa poche. Et la suite du livre nous montrera que nous n'avons pas ici une véritable conversion. Nous avons un simili de religieux. Nous avons un vernis de surface. Nous avons des références bibliques. Nous avons des références théologiques. Nous avons une culture. Mais c'est du vernis. Et le vernis ne tient pas. Je pourrais vous citer nombre de dirigeants politiques, économiques, culturels qui parfois ont ce vernis-là, mais chez qui il n'y a rien au fond. Quand j'entends un candidat à l'élection présidentielle française dire qu'il veut sauver l'Église, sauver le christianisme en laissant Jésus de côté, je suis là devant quelqu'un qui a un vernis. Ce que Nabucodonosor retient vraiment de tout cela, c'est que lui-même est la tête d'or, qu'il est lui le plus grand, le plus glorieux, et qu'après lui, ce sera forcément moins bien. Nabucodonosor ne s'humilie pas vraiment devant Dieu. Mais il ne sert à rien que Dieu révèle quoi que ce soit si le cœur des hommes n'est pas droit, si le cœur des humains n'est pas prêt à s'humilier devant lui. Daniel est récompensé. Il devient gouverneur en titre de toute la province de Babylone, pas de tout l'Empire, comme on l'a dit parfois, mais de la province mère, de la province centrale. Et bien sûr que ça a dû faire des jaloux. Il est nommé chef suprême de tous les sages de Babylone. Étonnant, hein ? Il est tellement différent d'eux. Est-ce que ses subalternes lui montreront de la reconnaissance pour leur avoir sauvé la vie ? Au contraire, on verra bien, hein, ils seront jaloux de ce juif qui se démarque d'eux par ses croyances, ils comploteront contre lui. Est-ce grâce à Daniel que 600 ans plus tard, des mages d'Orient viendront chercher à Bethléem le roi des Juifs qui venait de naître ? Daniel demeure à la cour en tant que conseiller spécial. Ses trois amis le secondent pour l'administration de la province, des places d'honneur, mais au service d'un tyran imprévisible. Ils feront de leur mieux, sachant qu'ils peuvent tout perdre du jour au lendemain, et nous y reviendrons dimanche prochain. Mais je conclus. Qu'est-ce qu'on peut tirer de toute cette histoire ? Moi, je retiens trois choses. D'abord, nous, chrétiens et chrétiennes, nous n'avons rien à faire avec l'astrologie et les autres formes de magie et de superstition. Nous n'avons rien à faire avec ça. Parce que notre confiance, elle est en Dieu seul. Et c'est Dieu seul qui est le remède à nos angoisses. Tout le reste nous laissera profondément insatisfaits. La deuxième chose que je relève, c'est que la présence de chrétiens intègres dans la société, c'est un plus pour tout le monde, y compris dans un contexte païen, y compris dans un contexte occulte, y compris dans un contexte où il y a des rapports de force. La présence de chrétiens et de chrétiennes intègres dans la société, c'est un plus pour tout le monde. Dans la culture, dans les arts, dans la politique, au collège, à l'université, à l'école primaire, dans ton métier, comme patron, comme employé, comme retraité dans une association, la présence de chrétiens intègres dans la société, c'est un point positif pour tout le monde. Un témoignage de vérité, un témoignage de sagesse, un témoignage d'intégrité, de probité, bien sûr que c'est difficile, Céline l'a remarquablement illustré la semaine passée, rappelez-vous, la boîte de vis. Et ce témoignage, il compte. Tout le monde y gagne. Et troisième et dernière remarque. Dieu est le maître de la grande histoire comme de la petite histoire. Son royaume est plus durable que celui de Paris ou de Londres ou de Moscou ou de Pyongyang. Les prophètes de l'Ancien Testament étaient capables de discerner dans les malheurs de leur temps la main souveraine de Dieu et d'annoncer alors le roi par excellence. Nous sommes sans doute beaucoup moins doués qu'eux pour annoncer le roi par excellence. Mais nous avons la même foi qu'eux. Notre Dieu règne, il est aux commandes. Jésus a commencé à instaurer son règne. Je pense que tout le monde ici aime le Messie de Handel. Au moins, son Alléluia, si c'est la seule chose que nous connaissons. Le texte de ce chœur va tellement bien avec le message de Daniel, va tellement bien avec le livre de l'Apocalypse. Alléluia, car le Seigneur Tout-Puissant règne. Le royaume du monde est devenu le royaume du Seigneur et de son Christ, et il règnera pour les siècles des siècles, roi des rois et seigneur des seigneurs. Alléluia ! Nous le croyons et nous le vivons. Amen.
Il règnera pour toujours. Je vous invite à juste prendre une petite minute de silence, chacun dans son cœur personnellement, pour remercier Dieu pour cela, en silence. Merci. Seigneur, il n'est pas toujours facile de te laisser régner dans nos vies. Merci parce que ton règne est celui d'un Dieu qui nous connaît chacun depuis toujours, qui nous aime et qui veut notre bien. Merci de nous le rappeler ce matin. Aide-nous à te laisser cette place qui est celle qui te revient. Amen. Et nous allons chanter encore un chant. Je vous invite à vous lever.
L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien, mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois, et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin, la joie, la vie et le bonheur sont dans tes paris, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir.
Bonjour à tout le monde, j'ai le grand privilège de vous faire les annonces avec pour cette semaine, jeudi, une rencontre du conseil dans un premier temps et puis une rencontre avec le groupe d'évaluation et d'accompagnement des pasteurs. Vendredi 28, le KT continue à 17h ici à l'EM. Dimanche 30, donc la semaine prochaine, la série sur Daniel continue avec le thème « L'Empire contre-attaque » puisqu'aujourd'hui on a vu le début de l'Empire qui était... Dimanche 6 mars, alors j'invite la Claude, il y a le derby des bois, quelques petites infos.
Alors le derby des bois qui est une traditionnelle course et marche populaire à Versoix, donc renoue avec la tradition de l'organiser, donc le dimanche après-midi 6 mars, si ça vous dit de participer à cette, on peut le faire, on va faire une inscription globale, Église évangélique de Mérin, c'était aussi un peu toujours comme ça qu'on a procédé, donc venez me trouver, on peut s'organiser et puis vous expliquer, vous donner plus d'explications, donc le dimanche 6 mars après-midi, merci.
Le dimanche 13 mars, nous aurons un spectacle qui aura lieu ici à 17h30. Vous voyez affiché le flyer. Des flyers qui vont bientôt arriver, qu'on aura certainement à disposition. La boussole et le baluchon, pour les personnes qui se posent des questions sur le sens de la vie. C'est, pour plus d'informations, vous pouvez demander à Daniel Strubin, qui prend en charge l'équipe d'organisation, pour ce spectacle qui aura lieu ici. Samedi 23 avril, il y aura le concert Adonia qui aura lieu, sauf erreur, au CEPOM à 19h. Là aussi, vous aurez plus d'informations. Oui, tu veux dire peut-être deux mots ?
Alors voilà, donc c'est un concert de la part des adolescents. Donc Adonia est un groupe essentiellement, je dirais, qui vient de Suisse allemande, enfin, qui était à l'origine suisse allemande. Et que c'est la première fois qu'ils seront à Genève. Donc c'est une soixantaine ou septantaine d'adolescents qui chantent et qui font une comédie musicale sur le thème, justement, aussi de Daniel. Donc ce sera intéressant aussi d'avoir un suivi là. Et ils viendront donc au Centre œcuménique le samedi 23 avril à 19h. Et donc il y aura des papillons, on sera tous invités à participer. Et peut-être aussi on vous demandera une petite équipe pour finaliser l'organisation, notamment au Centre œcuménique. Merci beaucoup.
Merci. Alors comme vous avez les agendas ouverts, on continue. Dimanche 1er mai, culte des baptêmes. Les pasteurs sont à disposition. Si des personnes sont intéressées, il y a une formation juste avant pour les baptêmes. Si vous êtes intéressé par la formation ou même par un baptême, vous pouvez vous adresser au pasteur pour en savoir plus. Ensuite, comme on l'a dit la dernière fois, nous avons prévu deux sorties d'église au lieu d'un week-end, sous la présidence de Claire-Lise Serex, qui organise tout ça avec une petite équipe qui s'est mise en place. Donc dimanche 22 mai et puis jeudi 8 septembre, qui est le jeudi du jeûne genevois. Voilà pour les dates, je continue pas plus loin parce que vous connaissez après les dates de Noël et compagnie. Ça c'est assez classique. Donc il y a beaucoup de dates, mais je répéterai la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas. Ensuite, une petite information pour vous dire que les pasteurs sont toujours à disposition, soit la semaine, soit après le culte, pour discuter avec eux. Voilà. Et puis, comme toujours, à la sortie, vous avez à disposition des bulletins de versement ou par Twint pour les offrandes ou alors un petit panier. C'est grâce à ces offrandes que l'Église fonctionne, tourne. Et on en est reconnaissant. Merci à chacun.
Et avant la bénédiction, j'aimerais simplement encore vous informer du décès hier soir de Jean-Marc Streuli, le fils de Betty Streuli, le frère de Carole Streuli, qui avait été emporté, vous vous en souvenez, dans le tsunami de 2004. Il est décédé hier soir à Collonges-Bellerive. Je rencontre la famille cet après-midi. Il y aura probablement un service dans la semaine. Merci de penser à Julia, son épouse. Ils ont encore deux petits-enfants à la maison, Henri-Alexandre et Cécile, Alicia. Voilà, on peut penser à eux. J'aimerais prier et puis juste lire un texte pour nous envoyer dans la nouvelle semaine. Te prions de poser ta consolation, Seigneur, sur Julia, sur les enfants, sur Betty aussi. Seigneur, viens déployer tes tendresses dans cette situation désolante. Nous comptons sur toi, dans le nom de Jésus. Amen. Je vous invite à vous lever, j'emprunte la bénédiction au psaume 4. Apprenez que le Seigneur distingue celui qui est fidèle. Il m'écoute quand je l'appelle au secours. Quand vous êtes fâché, ne vous mettez pas en tort. Réfléchissez pendant la nuit, mais gardez le silence. Offrez des sacrifices qui sont justes et faites confiance à la décision du Seigneur. Beaucoup se plaignent, comme nous aimerions voir le bonheur. Seigneur, fais briller sur nous la lumière de ta face. Dans mon cœur, tu mets plus de joie que ces gens n'en trouvent quand leur blé et leur vin abondent. Aussitôt couché, je m'endors en paix. Car toi seul, Seigneur, tu me fais vivre en sécurité. Dans la paix du Seigneur, allez dans cette nouvelle semaine. Il est avec vous. Amen.